11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Quand Mediapart enquête sur des publications douteuses de Mediapart, c'est une fraude à l'information d'une ampleur rarement égalée. Le site d'info Mediapart révèle cette semaine les agissements de l'entreprise française Avisa Partners, spécialisée dans la cybersécurité, mais également dans l'influence dans les médias et sur le numérique. Cette société embauchait des rédacteurs pour produire des billets, des faux billets pourrait-on dire, de blogs publiés sur des sites participatifs sous de fausses identités. Le but de ces publications ? Produire des articles qui allaient dans le sens de leurs clients, parmi lesquels des entreprises du CAC 40 et certaines dictatures. On doit ces révélations à l'un des auteurs de l'ombre qui a décidé de rendre publiques ses activités dans le journal Fakir. Et depuis, la rédaction de Mediapart a enquêté et a découvert qu'elle avait elle-même été victime de ces faux articles sur son site participatif. Elle en a décompté, dénombré pas moins de 634, notes qui ont depuis évidemment toutes été retirées. Bonjour Antoine Rouget.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour le site d'Info Mediapart. Vous avez co-réalisé cette enquête. Un Mediapart qui abrique des fake news en son sein, ça paraît énorme. D'abord, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le club Mediapart où pouvaient se lire ces 634 billets ?
Donc, il faut rappeler que la création de Mediapart, c'est sur deux jambes en fait. La partie journal avec notamment l'investigation, l'enquête qui fait aujourd'hui la reconnaissance de Mediapart et une partie participative qui permet en fait à chaque abonné de Mediapart, aujourd'hui on en compte plus de 200 000, d'ouvrir un blog et d'interagir, d'écrire des billets, soit des billets d'humeur, soit des billets y compris sur notre couverture. Il arrive qu'on puisse être bousculé dans notre couverture du journal par des abonnés qui expriment des opinions divergentes. Et l'idée, c'est vraiment de créer un espace serein de discussion permettant justement à nos abonnés de s'exprimer dans une logique un petit peu de free speech en fait. Ouais. Là où beaucoup de médias là où beaucoup de médias ont renoncé finalement, y compris dans la gestion des commentaires, dans la fermeture des blogs, etc. Il y a eu un mouvement ces dernières années de beaucoup de médias, dont Le Monde, par exemple, de fermer les blogs ou de rester sur des blogs spécialisés. Nous, il y a vraiment une volonté de continuer à interagir avec nos abonnés et donc d'alimenter ce club de Mediapart.
Question cruciale, est-ce que les articles sont relus, sont visés avant publication ?
Non, la modération se fait a posteriori avec un système, y compris interne, de signalement, c'est-à-dire qu'un abonné qui verrait des fausses informations ou qui sentirait un billet douteux peut très bien signaler. On a une équipe interne de 4 journalistes dont le travail en interne est de réguler et d'organiser le club de Mediapart.
Alors vous parlez vous-même de, je vous cite, l'une des plus grandes entreprises de manipulation de l'information intervenue. À l'origine de ces révélations, c'est le témoignage d'un de ses rédacteurs, que vous appelez Julien. Il a d'abord témoigné dans le journal Fakir. Qui est-il et pourquoi a-t-il décidé de parler ?
Donc c'est un journaliste indépendant, pigiste, qui il y a 6 ans a commencé à travailler pour une agence dont il ignorait tout, à la fois l'organisation, les clients, les pratiques, et qui a commencé à vendre des piges comme le font beaucoup de journalistes indépendants.
Cette agence, c'est Avisa Partners dont je parlais en préambule ?
Oui, tout à fait. Et ensuite il était rémunéré par le truchement d'autres sociétés, mais qui sont elles-mêmes prestataires d'Avisa Partners. Et donc on lui a commandé des sujet extrêmement précis. Il en a rédigé des centaines pendant ces 6 années. Chaque mois, il y avait un volet de 4 à 5 billets en moyenne qu'il rédigeait. Et il s'est rendu compte que c'était à chaque fois sur des commandes très précises, en fait, des sujets liés à des domaines de compétences par ailleurs qu'il n'avait pas, mais il s'adaptait. Et il a détecté à chaque fois dans les commandes qui lui étaient faites des potentiels clients pour lesquels, en fait, il devait rédiger ses billets. Et ces billets, ensuite, il les envoyait en fichier Word et étaient publiés sous de fausses identités sur des espaces participatifs, dont le club de Mediapart.
Alors, vous avez fait une recension, vous écrivez sur le blog du club Mediapart, on pouvait lire ça. Les titres des papiers, par exemple, Uber, la justice pas si fâchée que cela. Un autre papier, comment les marques de luxe profitent de la crise. Émirats, Arabie Saoudite, faux alliés, vrais ennemis. Le vin, véritable or rouge de la France. Ou alors, l'attitude irresponsable d'Anne Hidalgo. Ces articles ne sont pas tous rédigés au nom de Julien, vous l'avez dit. Vous avez recensé sur votre site 200 profils différents, comme Hugo Revon ou Laure Martin. Était-ce uniquement Julien qui se cachait derrière ces 200 faux profils ou d'autres personnes ?
Non, la possibilité de cette enquête, en fait, c'est donc Julien, en toute transparence, a échangé avec nous sur les profils qu'il avait détectés et qui et qui portait finalement les textes et les billets qu'il avait lui-même rédigés. Mmh. Et en fait, par recoupement à la fois les quatre journalistes du club de Mediapart et les équipes techniques en fait de Mediapart en interne ont pu recouper et trouver des comptes associés, soit avec des identifiants de paiement qui étaient identiques, soit avec des adresses IP qui correspondaient. Et c'est là qu'on a pu en fait découvrir une arborescence et découvrir l'ampleur du phénomène dans les soutes finalement de Mediapart et des billets de blog de Mediapart, avec toujours des thématiques effectivement extrêmement précises. Et ce qui est intéressant, c'est que de premier abord, ces billets paraissent équilibrés. Mmh. Et en fait, on se rend compte, y compris dans les commandes qui ont été faites à Julien, qu'il y a toujours une volonté à un moment de glisser un nom, de valoriser une personne, d'en incriminer une autre pour répondre à la commande du client.
Vous dites que les sujets abordés sont précis, c'est parfois même très pointu. Exemple, celui qui concernait un référendum organisé par un dictateur au Congo-Brazzaville en 2015. Il faut aller chercher celui-là. Ou les efforts du Kazakhstan dans la lutte contre le réchauffement climatique en 2017. Est-ce que c'est des papiers, pardon de sourire, qui ont beaucoup été lus par vos abonnés ou lecteurs? Est-ce que vous avez pu consulter les statistiques de ces pages?
C'est évidemment ce qu'on a regardé, à la fois les statistiques et puis de savoir si nous, on n'avait pas commis d'erreur en montant à la une et en valorisant nous-mêmes ces billets-là. Ils ne l'ont pas été. Mais ce qui est intéressant, par exemple, sur les cas des billets de blog en lien avec l'Afrique, c'est que des salariés d'Avisa Partners, que nous avons aussi rencontrés dans le cadre de notre enquête, nous ont expliqué que l'intention ou l'enjeu pour le client n'était pas tant une diffusion massive en France, mais une reprise, notamment dans la presse loyaliste des pays concernés. C'est-à-dire qu'on peut après avoir des médias, notamment au Congo-Brazzaville, qui disent regardez, la presse européenne, qu'elle soit suisse ou française, par exemple, dit que l'opposition est moribonde et que le renouvellement de la Constitution est une très bonne chose. Et donc, ça, finalement, la marque Mediapart vient s'adosser à un contenu que nous n'avons pas rédigé et donc trompe le citoyen dans le pays concerné.
En validant l'article que vous n'avez pas écrit vous-même, on n'a pas encore parlé de cette société Avisa Partners. Antoine Rouget de Mediapart est avec nous. Culture Média.
9h-11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Quand Mediapart enquête sur des publications douteuses de Mediapart, c'est sur le site de Mediapart. Chacun peut poster des billets. Or, vous avez découvert, grâce à un journaliste que vous appelez Julien, que certains billets qu'il avait écrits sous diverses identités n'étaient pas totalement, sincèrement le reflet de sa pensée, mais des commandes. C'est sur le site de Fakir, ce trimestriel, que Julien partage le genre de mail qu'il recevait de son employeur, car il y a un employeur, pour chaque commande d'article. Je vous lis, Antoine Rouget, je lis votre papier. En tout cas, là, je lis le SMS. « Salut, j'ai un article à te commander. » Donc, il en écrit à Julien. « J'ai un article à te commander pour la semaine prochaine, 60€. Dis-moi si c'est bon pour toi, avec un petit smiley. Un article sur l'adhésion du Monténégro à l'OTAN qui suscite de plus en plus de polémiques. Il faut que l'article soit neutre et journalistique, tout en développant que le Monténégro est trop corrompu et victime de trop de crimes pour adhérer à l'OTAN. Ne pas parler de la Russie. Voilà, merci encore. » Fin de citation. Comment Julien a-t-il été recruté et sait-il vraiment pour qui il travaillait ?
Donc il a été recruté par une agence qui gère des pigistes. En fait, il a envoyé un CV, il était à la recherche de piges en tant que journaliste indépendant. Et il travaillait, c'est intéressant, ce mail par exemple que vous avez lu, il travaillait en fait en relation totalement anonyme avec ses supérieurs hiérarchiques. C'est-à-dire que quand il a cherché un petit peu à savoir qui étaient les personnes qui lui passaient commande, en fait ces personnes agissaient, y compris avec lui, sous pseudo. Donc les choses sont extrêmement cloisonnées. Et c'est au fur et à mesure, finalement, il a travaillé pendant 6 ans, qu'il a pu recouper à la fois l'identité de certaines personnes qui étaient au-dessus de lui, se rendre compte que les billets qu'il rédigeait étaient effectivement publiés sur des plateformes de blog sous fausses identités, et aussi recouper l'identité de certains clients. Parce qu'il y avait des numéros, notamment sur ses facturations, et donc il s'est rendu compte qu'un certain nombre de clients étaient au cœur de pas mal de thématiques qui permettaient de dévoiler de qui il s'agissait. Là, en l'occurrence, c'est intéressant de voir qu'il faut dénigrer l'adhésion du Monténégro, mais surtout ne pas parler de la Russie. Et donc on voit bien qu'il y a un enjeu de masquer un acteur dans ce dossier-là, et on se doute qu'il n'est pas très très loin de la commande.
Derrière tous ces faux articles, une société française, Avisa Partners, société dirigée par Arnaud Dassier, un proche de Nicolas Sarkozy et d'Éric Zemmour, écrivez-vous, est le fils d'un ancien directeur d'un service de renseignement militaire, Mathieu Creux. Cette société, Avisa Partners, est spécialisée en intelligence économique et en cybersécurité. Quel genre de prestations réalise-t-elle à ce titre ?
Donc elle a une partie renseignement, Il faut savoir que c'est une société très bien connectée au milieu du renseignement. Par exemple, l'ancien patron de la sécurité intérieure, du renseignement intérieur, Patrick Calvar, fait partie de cette société. Elle a aussi beaucoup de réseaux dans la diplomatie. L'ancien numéro 2 du Quai d'Orsay, Maurice Gourdeau-Montagne, a été aussi recruté par Avisa Partners. On peut aussi prendre l'exemple de Sylvain Faure, l'ancienne plume d'Emmanuel Macron, qui écrivait ses discours à l'Élysée, qui a aussi fait toute sa campagne 2017, a été recruté par Avisa Partners. Il vient d'en partir. Et donc, les deux branches, finalement, d'Avisa Partners, c'est la partie renseignement privé, et influence pour des grandes entreprises ou des dirigeants d'entreprises ou des dirigeants de pays étrangers. Il faut savoir que l'influence, ça existe. Le sujet ici, c'est pas tant le but, mais c'est le moyen par lequel et les fins utilisées par Avisa Partners pour arriver à cet objectif-là.
Vous citez certains clients d'Avisa Partners en 2020. C'était Mathieu Creux qui détaillait sa société au magazine Causeur. Clientèle impressionnante, Interpol, le Ghana, la Côte d'Ivoire, San Marin, le Togo, la Commission européenne, le ministère des Armées, BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole, la Banque Palatine, AXA, les assurances, CNP Assurance, Engie, EDF, Total, L'Oréal, LVMH, Chanel, Carrefour, Casino. Vous écrivez, c'est là où le plus intéressant, des documents internes à Avisa Partners obtenus par Mediapart montrent aujourd'hui une palette plus vaste encore de clients étatiques, dont certains pays qui sentent le soufre. Qu'entendez-vous par là? Quel pays?
Par exemple, le Kazakhstan. Le Kazakhstan est un gros client d'Avisa Partners. Et c'est intéressant de voir qu'il n'a pas été développé par Mathieu Creux quand il a donné une partie de la liste de ses clients. Il y a aussi on en a parlé tout à l'heure, des dirigeants étrangers comme Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, qui sont des personnalités à minima sulfureuses. Hein. Ce sont des régimes autoritaires, dictatoriaux. Et donc, on voit bien que le danger que représente l'infiltration d'espaces participatifs pour le compte de cette clientèle-là, surtout dans le contexte géopolitique actuel avec le début de la guerre en Ukraine.
Antoine Rouget, dernière question, elle concerne l'actualité, elle concerne l'affaire Aziz Zemmoury, journaliste au Point, qui avait publié la semaine dernière une enquête erronée à propos du couple de députés LFI Raquel Garrido et Alexis Corbière. Vous aviez mené rapidement une contre-enquête avec le journaliste David Perrotin dans Mediapart, enquête qui démontrait les failles du papier de Zemmoury. Hier, il a porté plainte pour abus de confiance contre le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, qui serait, dit-il, à l'origine de la manipulation dont il a été victime. Lagarde qui a battu aux législatives par Raquel Garrido, j'y arrive. Est-ce que vous confirmez ces informations? Est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que vous avez continué à creuser ce sillon et cette affaire?
Oui, on continue à creuser cette affaire, mais sur une dimension qui nous semble la plus importante, qui est celle de la responsabilité de la direction du Point. J'ai été extrêmement interpellé par les explications fournies par Étienne Jarnel, directeur du Point, à votre antenne lundi dernier. Il a lâché en rase campagne son journaliste. Pour moi, un responsable et un directeur de rédaction doit assumer dans ces cas-là, dans la tempête, il doit prendre le vent et assumer. Là, j'avais l'impression d'entendre le capitaine du Costa Concordia qui prenait sa barque et s'en allait rapidement en laissant les autres couler. Donc moi, j'ai une pensée sincère pour les journalistes qui font sérieusement leur travail au Point. Il y en a et qui aujourd'hui finalement subissent les conséquences à la fois d'agissements de certains journalistes dont les agissements étaient connus, hein, bien au-delà de l'affaire Garrido-Corbière, et aussi de la lâcheté de leur propre direction.
Article à lire dans Le Point demain, et votre enquête, savez-vous quand vous allez la publier? Est-ce qu'il y a des dates, est-ce qu'il y a des deadlines où vous publiez une enquête à Mediapart quand vous la jugez terminée et close?
On publie quand elle est terminée et close, notamment avec une phase très importante pour nous, qui est la phase du contradictoire. On attend évidemment la réponse des intéressés, et on sollicite Étienne Jarnel actuellement pour l'enquête qu'on est en train de mener sur les pratiques du Point.
Merci beaucoup Antoine Rouget. Je rappelle le sujet qui nous a intéressé de prime abord aujourd'hui, ce matin. Opération Intox, une société française au service des dictateurs et du CAC 40. Enquête à lire sur le site de Mediapart. Signée également, c'est important de le dire, par Fabrice Arfi et les journalistes slovaques Thomas Medlenak et Lukas Diko. Pourquoi deux journalistes slovaques?
Parce que l'un des prestataires d'Avisa, qui payait notamment les pigistes en France, est basé à Bratislava, donc il fallait qu'on enquête là-bas.
Pas souvent qu'on soit payé depuis Bratislava pour un papier écrit en France. Merci d'avoir été avec nous.
Merci
en
vous.
Direct dans Culture Média.